Chapitre 5. Le jugement dernier. Clément VII avait bien pardonné à Michel-Ange, mais avec une restriction intéressée. Le sculpteur devait achever les tombeaux de Saint-Laurent. Or, il était plein de tristesse et de dégoût, aussi bien contre les ignobles Médicis, dont les vices et les crimes souillaient sa patrie, que contre les habitants de Florence qui, au lieu de défendre dignement leur liberté, semblaient lâchement se complaire dans leur défaite. On aurait dû, disait-il, raser le palais des Médicis et faire, sur le terrain qu'il occupait, une place que l'on eût nommée la place des Mulets. Son élève Antonio Minci écrivait « Michel-Ange me paraît très fatigué et maigri. Nous ne pensons pas qu'il puisse vivre longtemps s'il ne se soigne pas. Ce mauvais état de santé provient de ce qu'il travaille beaucoup, mange peu et ne dort pas. Depuis un mois, il est tourmenté par des douleurs de tête et par des vertiges. Il faudrait, pendant l'hiver, l'empêcher de continuer son travail dans la sacristie. Il pourrait, dans la chambre qui est voisine, terminer la Vierge. » Son caractère si inquiet était encore surexcité par toutes ses peines de corps et d'esprit. Alexandre, l'ayant prié de lui dresser des plans pour la construction d'une citadelle, il le rabroua sans façon. Son mépris était sans borne pour ce bâtard d'une mulâtresse et de Laurent II. Il eut eu honte de travailler pour lui. Le travail, cependant, lui rendit le courage de vivre. Jusqu'en 1531, il se consacra presque tout entier à la décoration de la chapelle de Saint-Laurent, à la construction des tombeaux. Ceux de Julien, duc de Nemours, frère de Léon X, et de Laurent, duc d'Urbain, fils de Pierre et père de Catherine de Médicis. La chapelle a la forme d'un carré que surmonte une coupole. Au fond se trouve l'autel. Vis-à-vis, une vierge avec l'enfant et deux figures qui, probablement, sont de la main de ses élèves, Raphaël de Montelupo et Fra Giovanni Agnolo. De chaque côté, dans la hauteur du mur, les statues de Julien et de Laurent. Ces statues ne sont pas du tout les images ressemblantes des Médicis. Comme on le lui faisait observer, il répondit bravement « Qui donc s'attachera, dans 10 siècles, à cette ressemblance ?» Elles personnifient la pensée et l'action. Elles sont assises, celle de Julien, hardi, jeune, appuyant sur ses genoux son bâton de commandement, celle de Laurent, accablé dans une méditation profonde, sa tête soutenue par une main dont un doigt est posé sur ses lèvres. Les 4 statues du socle représentent les heures les plus émouvantes, sacrées, de la destinée de l'homme. La puissance limpide du jour, la beauté rêveuse de la nuit, la mélancolie languissante du crépuscule, la grâce de l'aurore qui s'éveille. Ces allégories furent comprises du peuple, qui les aima parce qu'il voyait les hommes et les choses du même cœur que Michel-Ange. On connaît le quatrain attribué à Strozzi. Cette nuit, que tu vois dormir dans une si douce attitude, fut par un ange sculpté dans ce rocher. Puisqu'elle dort, elle est vivante. Éveille-la, si tu ne le crois pas, elle te parlera. » Michel-Ange répondit par ses vers, si imprégnés à la fois de tristesse et de fierté, « C'est une grâce pour moi de dormir et encore plus d'être en rocher, pendant que le crime et la honte durent, ne pas voir, ne pas sentir est pour moi une grande chance. Aussi, ne m'éveille pas et parle bas. » Cette œuvre de Saint-Laurent exprime d'une manière complète le génie de Michel-Ange sculpteur, sa fougue personnelle, la souplesse et la force de sa main savante. Sans doute, inquiet de lui-même, de son œuvre, il n'achevait pas toujours avec minutie toutes ses figures. Avec l'impatience du poète que, dans sa création, le temps limite, il les faisait violemment sortir de la pierre, il leur donnait la vie. Si leur expression suffisait à dire, pour ses yeux, ses idées et ses sentiments, il s'arrêtait dans sa création. Michel-Ange, par ses œuvres, ne charme pas, il émeut. Il remue profondément le sang de notre cœur et de notre cerveau. Sans aucun souci de plaire, il impose à nous sa volonté, son génie, par l'unique moyen de la sincérité. Sans parti pris, par expérience, il ignore avec simplicité non les chefs-d'œuvre du passé, mais les œuvres qui, de son temps, autour de lui, s'élèvent en cherchant de la vie. Depuis ses premières études dans les jardins de Saint-Marc jusqu'à la plus extrême vieillesse, il n'a cessé de se réchauffer à la lumière de l'art antique, mais sans le suivre dans son inspiration et dans ses méthodes. On sait quelle admiration raisonnée, religieuse, il professait pour le torse du Belvédère. On a même été à ce propos jusqu'à inventer cette fable qu'étant devenu aveugle dans ses derniers jours, il se faisait conduire près de ce marbre fameux et qu'il en caressait les contours de ses mains tremblantes. Sa manière de représenter la forme humaine était nouvelle sans doute, il le savait. C'est que, dans la vivacité de son tempérament, il heurtait le rythme des lignes. S'il ne voulait pas exprimer l'âme abstraite de l'Antiquité, c'est qu'il croyait que le corps a bien, lui aussi, sa conscience, sa beauté, sa douleur, sa joie. Il ne pouvait, à ses figures, que donner de l'âme qui était en lui, passionnée, douloureuse, et il contraignait cette âme si vivante à sortir des étroites limites du marbre pour exprimer par la forme des émotions et des pensées. Michel-Ange, épuisé par son labeur, tomba malade, juin 1531. À l'automne, on craignit pour sa vie. Clément VII s'alarma des fatigues de son sculpteur. Par un bref du mois de novembre, il lui défendit, sous peine de l'excommunication, de travailler à autre chose qu'au tombeau de Jules II, à ceux des Médicis. Le pape souhaitait qu'il pût plus longtemps glorifier Rome, sa famille et lui-même. Il lui fit écrire « Quand on te demandera un tableau, tu devras t'attacher ton pinceau au pied, tracer quatre traits sur une toile et répondre « Le tableau est fait ». Clément VII le protégea également de la haine vindicative des héritiers de Jules II. En 1532, un nouveau contrat fut signé entre l'artiste et les représentants du duc d'Urbain au sujet du tombeau des Médicis. 20 contrats, d'ailleurs, comme celui du projet du monument de Jules II. Le 25 septembre 1534, lorsque Clément VII mourut, Michel-Ange se trouvait heureusement hors de Florence. Car le duc Alexandre de Médicis le détestait d'une âme si farouche qu'il l'eût peut-être fait tuer. Michel-Ange ne retourna plus à Florence. Ce qui reste de la chapelle des Médicis ne peut offrir aucune idée de la conception de l'artiste et ses disciples l'avaient si imparfaitement comprise, si maladroitement exécutée, qu'il ne fut pas lui-même capable, devant leur travail, de la retrouver entière dans son souvenir. « La mémoire et l'esprit, disait-il, m'ont devancé pour m'attendre dans l'autre monde. » Il retourne à Rome pour ne plus la quitter. Il avait perdu le frère qu'il aimait le mieux, il avait perdu son père. Et dans un poème, tout brûlant de la pensée de la mort, il exhalait sa douleur. « Le ciel t'a arraché à notre misère, et pitié de moi qui vis comme un mort. Tu es mort à la mort et tu es devenu divin. » Tu n'as plus à craindre le changement d'être et de désir. À peine puis-je, sans envie, écrire cela. Le destin et le temps, qui nous apportent parfois la joie fragile et le malheur sûr, n'osent passer votre seuil. Aucun nuage n'obscurcit votre lumière. La suite des heures ne vous entraîne pas, la nécessité et le hasard n'ont plus d'action sur vous. La nuit n'éteint pas votre splendeur, le jour, aussi splendide qu'il soit, ne l'augmente pas. Par ta mort, j'apprends à mourir, mon cher père. La mort n'est pas, comme on l'imagine, le pire des maux pour celui dont le dernier jour est le premier et le jour éternel auprès du trône de Dieu. J'espère te revoir par la grâce de Dieu, et si ma raison arrache mon cœur glacé au terrestre limon, et si, comme toute vertu, l'amour au ciel grandit entre le Père et le Fils. De nouveau, attiré par l'émotion de la mort, hanté par l'illusion qu'un jour, à la porte du ciel, ses maux seront finis, il exhale sa plainte et sa prière. « Hélas, hélas, j'ai trop attendu. Le temps m'a fui, me voici vieux. Je ne peux plus, ayant auprès de moi la mort, me repentir ni me recueillir. Je pleure en vain. Nul malheur n'est comparable au temps qu'on a perdu. Hélas, hélas, quand je tourne mes regards vers le passé, je ne trouve aucun moment qui vraiment m'est appartenu. Les fausses espérances, le désir inutile, m'ont tenu pleurant, aimant, brûlant et soupirant, car pas une misère n'est inconnue de moi, loin de la vérité. Hélas, hélas, je vais sans savoir où, J'ai peur. Et si je ne me trompe, Dieu veuille que je me trompe, je vois, Seigneur, pour le mal que j'ai commis en connaissant le bien à faire, je vois quel châtiment éternel m'attend. Je ne sais plus qu'espérer. » À peine arrivé dans Rome, où il pensait terminer en paix le tombeau de Jules II, Michel-Ange fut accaparé par le nouveau pontife, successeur de Clément VII. C'était Paul III qui le pria d'entrer à son service. Michel-Ange refusa cette offre sous le prétexte qu'il n'était pas libre, car un contrat le liait avec le duc d'Urbain jusqu'à l'achèvement du fameux tombeau. Alors le pontife partit en colère. « Quoi ? Voilà 30 ans que je songe à t'avoir, et maintenant que je suis pape, je ne pourrai pas satisfaire mon désir. Tu as un contrat avec le duc d'Urbain ? Que m'importe, je le déchirerai, et en dépit de tout, il faut que tu me serves. » Michel-Ange en avait assez de toutes ses servitudes. Il eut l'idée de s'enfuir jusqu'à Gênes, de s'y réfugier dans une abbaye de l'évêque d'Aléria, qui était son ami et qui avait été celui de Jules II. Là, dans le voisinage de Carrare, il eut bien aisément terminé son œuvre. L'idée lui vint aussi de se retirer à Urbain, parce que c'était un lieu paisible où il espérait qu'en souvenir de Jules II, il serait affectueusement considéré. Déjà, il y avait envoyé un de ses gens pour acheter une maison. Mais Paul III se radoucit. Il entoura l'artiste de prévenance si patiemment qu'il obtint de lui l'acceptation de commencer sans retard l'exécution du grand projet de compléter par 2 vastes fresques les peintures de la Sixtine aux 2 extrémités de la chapelle. Cependant, dès les premiers travaux, ils faillirent se brouiller. Paul III, en effet, voulait enlever de la chapelle pour y mettre les siennes, les armes de Jules II. Michel-Ange s'y opposa. « Ce ne serait pas bien, dit-il. Nous devons cet honneur à Jules et à Clément. »« Nous devons cet honneur à Jules et à Clément. » Loin d'être blessé par cette franchise, Paul III fut plein de respect pour celui qui avait eu le courage de lui résister. Par un bref du 1er septembre 1535, il le nomma architecte en chef, sculpteur et peintre du palais apostolique. L'artiste entra résolument dans sa nouvelle œuvre pour n'en sortir qu'en novembre 1541. Un jour, en tombant de l'échafaudage, il se blessa grièvement à la jambe. Il ne voulut, dans sa colère, être soigné par aucun médecin. Néanmoins, maître Baccio Ruttini, de Florence, son ami, qui était un médecin de beaucoup d'esprit, eut pitié de lui et, un jour, il s'en alla frapper à la porte de sa maison. Personne ne lui répondit. Il monta, chercha de chambre en chambre, jusqu'à ce qu'il arrivât dans celle où Michel-Ange était couché. Celui-ci, quand il aperçut, fut au désespoir. Mais Baccio ne consentit pas à le quitter, et il ne partit qu'après l'avoir parfaitement guéri. Paul III venait de temps à autre assister au travail de l'artiste et dire bonnement ses impressions. Son maître des cérémonies, Biagio de Cesena, l'accompagnait quelquefois. Un jour, le pape demanda à Biagio son opinion sur l'ouvrage de Michel-Ange. Biagio, qui était un homme rempli de craintes et de scrupules, déclara qu'il trouvait très inconvenant de représenter dans une chapelle tant de nudités indécentes, convenables tout au plus à une salle de bain ou à une auberge. Michel-Ange, indigné par ces mots, dissimula son mépris. Mais dès que ses visiteurs eurent disparu, il portraitura de mémoire Biagio, et il le mit dans l'enfer sous la forme de Minos avec un grand serpent enroulé autour des jambes au milieu d'une montagne de diables. Naturellement, Biagio se plaignit tout de suite à Paul III. Celui-ci, sans façon, se moqua de lui. « Si encore Michel-Ange t'avait mis au purgatoire, j'aurais pu intercéder en ta faveur. Mais tu es dans l'enfer. Je ne peux rien. Tu dois y rester éternellement. » Biagio ne fut pas le seul à trouver indécentes les peintures de Michel-Ange. L'Italie se faisait prude, et le temps n'était pas loin où Véronèse allait être traduit devant l'Inquisition pour l'inconvenance de sa scène chez Simon. Romain Rolland. Véronèse ne manqua point, d'ailleurs, de s'appuyer sur l'exemple du jugement dernier. « Je conviens que c'est mal, déclara-t-il, mais j'en reviens à dire ce que j'ai dit, que c'est un devoir pour moi de suivre les exemples que mes maîtres m'ont donnés. Qu'ont donc fait vos maîtres? Des choses pareilles, peut-être? Michel-Ange, à Rome, dans la chapelle du pape, a représenté notre Seigneur, sa mère, Saint Jean, Saint Pierre et la cour céleste, et il a représenté nus tous les personnages, voire la Vierge Marie, et dans des attitudes que la plus sévère religion n'a pas inspirées. Cette catastrophe de la fin du monde, avec ses nudités, ses violences, ses énormes développements de muscles et de formes, scandalisa même des amis du peintre. L'arétin ne fut pas celui qui cria le moins fort. Oui, l'immoral arétin, qui écrivait à la fois des livres obscènes et des livres de piété, qui louait ou attaquait avec emphase les rois et les grands, suivant que ceux-ci le payaient avec plus ou moins de libéralité, oui, le divin et cynique arétin, fou de vanité et méprisé par tout le monde, osa écrire à Incavico que la peinture de Michel-Ange pourrait faire mettre son auteur parmi les luthériens. L'arétin s'exprimait ainsi par vengeance. Il avait essayé, selon ses habitudes, d'extorquer à Michel-Ange quelques œuvres d'art. Il avait eu, de plus, l'effronterie de lui tracer un programme pour le jugement dernier. Michel-Ange avait décliné poliment cette offre de collaboration étrange et fait la sourde oreille aux demandes de présents. Raymond Roland. Depuis longtemps, en 1533, Clément VII avait donné l'ordre à Michel-Ange de décorer les deux côtés de la chapelle Sixtine, qui comporte chacun un espace de 40 pieds de large sur 70 en hauteur. Sur l'une des surfaces, le peintre devait représenter « Chute des anges rebelles » et sur l'autre, « Le jugement dernier ». Le premier de ces sujets n'a pas été traité, mais on sait avec quel art prodigieux Michel-Ange a exécuté le second. Cette grande fresque coûta au peintre 8 années d'un labeur incessant. Le public put la contempler à la fin de 1541, le jour de Noël. Dans cette œuvre, dont on a dit qu'elle était plus d'un sculpteur que d'un peintre, Michel-Ange a déployé ses qualités de coloriste véhément et vigoureux. Ne se souciant nullement de plaire, mais uniquement d'émouvoir le cerveau autant que le cœur de ses contemporains, il a dessiné avec sa fougue ordinaire, en tout l'abandon de son âme, des figures tourmentées par le désir de la vie, des nudités audacieuses dans le mouvement terrible d'une résurrection soudaine. Ces figures, cherchant la lumière du ciel, s'embarrassent encore dans la poussière, dans l'ombre de la mort, et elles voient avec horreur les gouffres de l'éternité au-dessous d'elles les attendre. Michel-Ange fit reproduire dans une copie à l'huile par Marcel Venusi et pour le cardinal Farnèse cette fresque du jugement dernier. Jules III et Marcel II la respectèrent. Le premier, 1549-1555, était d'une noble famille romaine. Le second, qui ne régna que 21 jours, n'eut sans doute pas le temps de manifester une opinion. Paul IV, un Napolitain, Jean-Pierre Carafa, pontife pendant 4 ans, était un religieux fanatique qui réorganisa l'Inquisition romaine. Dès son avènement au pontificat, il résolut d'effacer de la Sixtine le jugement dernier. « Dites au pape, répliqua Michel-Ange au mauvais messager de Paul IV, qu'il ne s'inquiète point de cette misère, mais un peu plus de réformer les hommes. À la vérité, cela est beaucoup moins facile que de corriger les peintures. » Paul IV, cédant aux instances de son entourage, se contenta de charger Daniel de Voltaire d'habiller les figures qui blessaient le plus les yeux. Le peintre, qui déjà avait habillé l'Isaïe de Raphaël, s'acquitta de sa tâche selon les goûts du pontife satisfait et ce brillant ouvrage valut à ce barbouilleur le surnom de Braghettone, le bragueteur, le culottier. Le jugement dernier n'avait pas fini de souffrir de la sottise des hommes. Grégoire XIII, 1572-1585, un Bolognais, celui-là même qui, d'accord avec les Guises, favorisa la Ligue en France, résolut de faire remplacer le grand ouvrage de Michel-Ange par une composition de Lorenzo Sablattini. Plus tard, Clément XIII, 1758-1769, un Vénitien, qui, pourtant, continua les travaux du Panthéon, des Marais Pontins et de Civitavecchia, se trouva scandalisé par la sincérité du grand peintre pieux. À l'imitation de Paul IV, il fit encore habiller par Stefano Pozzi quelques nudités trop nues qui avaient échappé sans doute à la clairvoyance de Daniel de Voltaire. Je dois ajouter, pour être impartial, que certains de ces rhabilleurs avaient honte de la besogne imbécile qui leur était ordonnée. Ainsi, le 4 avril 1759, Natoire, le directeur de l'Académie de France à Rome, écrit à son ministre « Le pape fait couvrir certaines parties un peu trop nues dans les ouvrages de Michel-Ange à la chapelle Sixtine. C'est un peintre nommé Stefano Pozzi, homme de mérite, qui, après bien des représentations, pour ne pas mettre les mains à des œuvres aussi respectables, est chargé de cette opération qu'il accomplit avec toute la discrétion possible, en détrempe, afin que, par la suite, ayant un pape moins scrupuleux, on pût facilement ôter les voiles répandus en différents endroits. »